Bienvenue en mer Noire. Nous allons accueillir aujourd'hui un invité, un pilote confirmé de l'armée de l'air ukrainienne. Alexandre, voulez-vous vous lever ?
US Navy Fighters, enrichi de son complément Marine Fighters, vous place aux commandes des meilleurs chasseurs à réaction sur porte-avions. Un quarteron de généraux a pris le pouvoir à Moscou et chassé Boris Yeltsin. La tension monte à nouveau entre l'Est et l'Ouest.
Ok, allez-y et soyez prudents.
Les missions qui vous sont confiées se déroulent sur deux théâtres d'opérations différents, l'Ukraine et les îles Kouriles. Dans les deux cas, vous êtes forcément américain et embarqué sur une porte-avions. Vous êtes donc appelé à pratiquer l'une des manœuvres les plus délicates qui soient, l'appontage. Le programme vous initie progressivement à cette opération, de même qu'aux techniques de navigation, de tir sur cible et bien sûr de combat tournoyant, le fameux dogfight. Lorsque vous vous sentirez suffisamment à l'aise pour voler de vos propres ailes, vous pourrez vous essayer aux missions instantanées. Vous choisissez votre appareil, celui ou celui de votre adversaire, et vous vous retrouvez face à face en plein ciel. Vous pouvez ainsi augmenter progressivement la difficulté. Le mode campagne est réservé aux pilotes confirmés. C'est aussi le plus intéressant. Il enchaîne les missions suivant un scénario bien pensé, reposant sur une bonne compréhension de la tactique et de la stratégie de l'aviation moderne. C'est très militaire, mais pour ceux qui aiment, c'est assez subtil. La réalisation est impeccable. Si vous avez un bon PC, ce programme est ce qu'il y a de mieux dans le genre, en reprenant certaines idées du célèbre Chuck Yeager. Bien sûr, un simulateur de vol, ça se maîtrise pas tout de suite. Il faut parfois une bonne dizaine d'heures avant de s'amuser vraiment. Avec Marine Fighters, qui, au passage, corrige quelques bugs de la version originale, ce simulateur de vol renforce sa place de meilleur simulateur d'avion réaction. On s'y attendait, Sony l'a fait. Après avoir racheté Psygnosis et lancé la PlayStation, les géants japonais s'attaquent à l'édition multimédia avec Bee and Bob, un logiciel d'éveil musical destiné aux plus petits. En compagnie de deux enfants du futur, Bee et Bob, et de leur babysitter Android Nano, les mélomanes en herbe visitent un univers plein de bruit et de fureur. Lors d'un voyage sidéral sur cinq planètes, les tout-petits découvrent que la musique ne se résume pas à des boom, zip, chouin, whiz, mais qu'elle comporte aussi rythme, mélodie et autres instruments de musique. Reconnaître les sons pour retrouver la clé d'une boîte à musique, habiller un mannequin pour écouter les airs traditionnels d'un pays ou trouver les mécanismes des instruments de musique sont autant de petits jeux proposés. Contrairement aux autres titres du même genre, Bee and Bob présente une grande interactivité avec des jeux vraiment amusants mais surtout renouvelables à chaque partie.
Sur micro et console, comme dans les cafés, les flippers proposent plein de thèmes différents. De la science-fiction au foot, en passant par l'heroic fantasy, les jeux de hasard, le western ou l'aviation. Chaque flipper a ses graphismes particuliers et sa propre ambiance. Mais ça n'est pas que pour faire joli. Les règles sont souvent très complexes et s'adaptent parfaitement à chaque thème. Dans Jailbreak, par exemple, vous devrez arrêter les malfaiteurs en épelant le mot « arrest », les envoyer devant la justice en touchant la cible « coupable » et fixer leur peine en envoyant la bille chez le juge. Et dans celui-ci, vous êtes un flic du futur à qui on confie des missions. Vous avez, par exemple, 30 secondes pour éteindre tous les incendies qui apparaissent sur le plateau. Heureusement, des animations dans le tableau des scores ou même carrément sur le plateau vous disent quoi faire, mais vous pouvez vous contenter d'aller là où ça clignote. En général, ça marche. Il arrive aussi que le tableau de score serve à afficher des petits jeux de réflexe ou de hasard. « Certains flippers jouent la carte du délire et sont pleins de bestioles qui remuent. Dans cet hommage au groupe de hard rock Mötley Crüe, par exemple, vous démolissez rageusement des bustes de Beethoven. Et vous passez d'un niveau à l'autre à l'aide d'une rampe qui projette votre bille dans l'espace. Mais en ce moment, la mode serait plutôt aux flippers réalistes. Un ancien de chez IBM a même inventé un clavier spécial avec des boutons sur les côtés et des capteurs qui permettent de secouer le clavier comme un vrai flipper pour récupérer la balle in extremis.
Et en plus de ça, il a mis dessus ici des petits capteurs et regardez, ça bouge.
Le top en la matière s'appelle The Web sur PC. On croirait une photo. Les programmeurs ont même réussi à restituer la sensation de lourdeur de la balle métallique. Comme le dit la pub, les autres flippers seront ces dauphins. C'est joliment tourné et ça pourrait bien être vrai. Alors tout ça vaut clavier, mais n'oubliez pas cet axiome bien connu des amateurs de flippers. Quand on décroche le multiball, le téléphone sonne. Ou alors c'est le chat qui vous grimpe sur les genoux.
Oh là 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 là, l'aigle dort. Des heures, que dis-je, des heures, des dizaines d'heures à errer dans les couloirs de ce château, entraînant des bottes avec ce bruit inexorable. À la recherche de chandeliers, d'indices et de passages secrets, avec des plans griffonnés à la hâte sur des feuilles que l'on perdait toujours, à échanger fébrilement des indices avec des amis, à pester contre le magnétophone à cassette de Lorik qui ne marchait qu'une fois sur trois. Et sur les versions Thompson, c'était le même cirque. Parfois, les oubliettes, c'était à hurler de rage.
Raven est le premier jeu 100% action de Cryo qui ne nous avait pas habitués à ce style de jeu. Mais rassurez-vous, ces images vous montrent que les spectaculaires séquences d'intro sont toujours au rendez-vous. Bienvenue dans l'univers des chasseurs galactiques. Quel genre de mission préférez-vous? Des combats de robots ou une chasse en 3D? À vous de choisir le bon véhicule. Au début, vous survolez une ville la nuit et votre circuit commence au-dessus du port. Pour ce genre de jeu, les graphismes sont au-dessus de la norme habituelle et quelques nouveautés viennent égayer les parties. Mais vous ne pouvez choisir que la direction que va prendre le vaisseau lors d'un embranchement, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas influer précisément sur les mouvements de votre vaisseau, tout est précalculé. En appuyant sur M, vous voyez apparaître à la carte des rues que vous allez survoler, parfois 3, mais jamais plus. C'est bien dommage pour l'interactivité. À vous de jouer en regardant sur la carte. Le but dans cette partie du jeu est de viser et d'accrocher le plus de cibles pendant le premier niveau pour revenir les détruire lors de la deuxième mission. N'oubliez pas de tirer sur les vaisseaux ennemis qui défendent leur territoire. Si vous atteignez au moins 40% des objectifs, vous passez au niveau suivant. The Raven est un jeu étonnant de la part de Cryo qui nous avait habitués à des jeux d'aventure. Cette fois, c'est l'action et le tir 3D qui priment avec trois styles de jeu différents selon les missions. Pour changer des missions précalculées, vous pourrez jouer en 3D en pilotant un robot interstellaire muni de quatre tirs différents. Les missiles sur les cibles que vous aurez préalablement sélectionnées. Mais les amateurs d'action sur PC seront déçus par les niveaux où les graphismes précalculés limitent l'interactivité. Par contre, la touche graphique de Cryo est toujours présente avec des graphismes 3D réussis et des longues séquences vidéo qui vous permettent de découvrir le scénario touffu du jeu. Un packaging intéressant et varié.
La horde est aux portes des régions habitées par les humains. Les orques, aux commandes de monstrueux navires de guerre, vont de nouveau tenter de prendre le pouvoir.
Voici comment démarre le très attendu jeu de gestion stratégie Warcraft 2 de Blizzard sur PC CD-ROM. Au fil des campagnes ou des missions indépendantes, les deux forces que composent les orques et les humains vont s'affronter pour la suprématie totale. Comme tout wargame, la partie ne sera pas simple. Au départ de chaque scénario, vous ne disposerez que d'un nombre limité d'unités qu'il sera nécessaire de produire en renouvellement constant pour pouvoir espérer vaincre vos ennemis. Deux devises pour réussir à un tel jeu. Être plus nombreux et plus puissants. Si la plupart du temps il s'agit de détruire systématiquement les unités et les bâtiments ennemis, d'autres missions, plutôt tactiques, vous demanderont d'escorter des dignitaires, des prisonniers ou encore de construire un type donné de bâtiment pour vous protéger.
Lord Terranus commands that you raise an outpost in the Hillsbrad foothills.
Voici l'unité de base, le paysan. Il pourra couper le bois, récolter l'or dans les mines, et surtout, il sera très utile à la fabrication des forteresses. Les unités les plus puissantes ne sont accessibles que dans les dernières missions des campagnes, comme les dragons, les mages et les griffons. Par rapport au premier épisode, outre des graphismes fins qui profitent pleinement du Super VGA, le jeu a sensiblement gagné en ergonomie. Il est maintenant possible de sélectionner plusieurs unités en même temps et les diriger vers leur destination. La bande sonore n'est pas en reste, avec des voix et des bruitages parfaitement dans le ton. Les musiques rythmées collent parfaitement au jeu. Elles rappelleront les ambiances héroïques fantasy du film Conan le Barbare. Avec ces deux campagnes d'une quinzaine de missions chacune et un éditeur de scénarii fonctionnant sous Windows, Warcraft 2 s'adresse à ceux pour qui croiser le fer et nager dans le sang ne font pas peur. D'autres CD de scénarii sont annoncés pour les mois qui viennent. Et pour les anglophobes, une version intégralement en français est attendue pour les semaines à venir.
Manic Miner, c'était un jeu proposé par Bug Bites, un de ses éditeurs, comme il en fleurissait des dizaines à cette époque. Un jeu comme ça, vous pouviez le programmer tout seul. Il suffisait de connaître à fond la machine, un langage de programmation et de passer plusieurs mois à ne pas voir le soleil. Café, coca, un minimum de toilette et Harry Petit, tout au compilateur. Moi, j'avais un petit ami qui ne faisait que ça. Alors forcément, je l'ai laissé tomber. Mais c'est très vite consolé parce que quand son jeu est sorti, il est devenu très très riche. Come on.